On n'est pas juste là pour faire ses courses et manger que bio local. On est vraiment dans une démarche beaucoup plus grande. Et on n'est pas unique en France. Hein. Il y en a partout maintenant de ce type d'initiative. Et il faut que ça se développe de plus en plus. C'est que les gens se posent des questions sur sa consommation au quotidien. Et c'est ce qu'on fait de plus en plus.
Quand elle ne travaille pas, Alicia consacre une partie de son temps libre au supermarché coopératif de sa ville de Vendée. Elle est parfois caissière, parfois affectée au réapprovisionnement. C'est la règle du jeu pour tous ces coopérateurs. C'est comme ça qu'on appelle ceux qui s'engagent dans les projets de supermarchés participatifs. En résumé, ils achètent une part du magasin, quelques dizaines d'euros. Ils s'engagent à donner du temps pour faire tourner la boutique, 3 ou 4 heures par mois. Et en échange, ils peuvent acheter les produits de bonne qualité proposés en rayon. Les coopérateurs veulent manger mieux, pour moins cher, en valorisant les produits des agriculteurs de leur région.
Aujourd'hui, le consommateur, il veut, avant de savoir comment on le fait, il veut savoir qui le fait. C'est ce qui rassure en premier le consommateur.
Vente directe, circuit court, agriculture raisonnée, le mode de consommation est déjà depuis un bon moment bousculé. Mais l'essor des supermarchés coopératifs vise, lui, le mode de distribution. Autrement dit, se passer des grandes surfaces et leur marge étourdissante. Résultat, près de 3 ans après l'ouverture du premier magasin du genre, c'était à Paris, une petite quarantaine de structures similaires a ouvert. La crise du Covid-19 devrait encore accélérer cette tendance avec le besoin devenu impérieux de revenir à une échelle plus humaine, même si le modèle dominant des hyper et supermarchés est loin d'être menacé.
Les 2/3 des produits alimentaires sont achetés en grande distribution et c'est vrai qu'ils adaptent à la fois leur format et leur concept en fonction des attentes des consommateurs.
Supermarché coopératif, l'autogestion face à la grande distribution, c'est un reportage de Faustine Calmel.
Interception sur France Inter.
Nous sommes dans le 18e arrondissement, au nord de Paris, rue des Poissonniers. C'est ici que s'est installée la Louve, le premier supermarché coopératif à avoir ouvert en France, dans une boutique de 1500 m². Au départ, c'est une chaîne de grande distribution qui devait s'installer. Et finalement, ce sont des citoyens, consommateurs, qui ont repris le lieu. Nous allons rencontrer les fondateurs de ce projet et les coopérateurs qui y travaillent depuis l'ouverture en novembre 2017.
Bonjour.
Bonjour, on travaille à France Inter, on a un rendez-vous pour un reportage sur la Louve.
Oui, venez. Bonjour, Gilles, vous êtes parfaitement à jour, parfait. Hein. Bonjour.
Très bien.
Voilà, vous êtes David et vous êtes à jour, donc c'est parfait.
Tu peux y aller alors.
À jour, ça veut dire que les coopérateurs ont fait leur service. Ce qu'ils doivent en aide, en travail, c'est-à-dire 3 heures par mois. Voilà, donc c'est un petit contrôle. Mais c'est sûr que la coopérative fonctionne avec le travail des membres. Hein. Vous avez vu, hein, les gens font des services, font le réassort, il y en a qui découpent les fromages en bas, il y a des gens à la caisse, il y a moi-même à l'accueil en ce moment pour 3 heures. Hein. Ça fonctionne comme une petite ruche, en fait.
Et vous trouvez quoi ici dans ce projet que vous ne trouviez pas dans les supermarchés classiques ?
C'est quand même une alternative à la grande distribution. Hein. Dire que les familles Carrefour, Auchan, etc. sont devenues les fortunes les plus importantes de France, en combien ? En une génération ? En mal payant leurs fournisseurs et leurs salariés, je trouve que c'est vraiment une alternative à ça.
Excusez-moi.
Oui.
Je peux vous demander votre prénom ?
Marc.
Et vous faites quoi aujourd'hui pendant votre service ?
Je fais la caisse. Voilà, un client arrive. Bonjour. Alors, votre carte, s'il vous plaît.
Ce projet de la Louve, il a été porté dès 2010 par 2 Américains, Tom Booth et Brian O'Hehan, largement inspiré de la Park Slope Food Coop, le premier supermarché coopératif ouvert en 1973 dans le quartier de Brooklyn, à New York.
Les habitants de ce quartier de Brooklyn à New York le savent bien, leur supermarché est un lieu unique en son genre. De l'extérieur, rien de particulier. Tout est dans le statut des employés. Ces femmes qui transportent des cagettes, ces hommes qui s'occupent du chargement, sont à la fois des clients, des actionnaires et des employés du commerce.
Je dois travailler 2h45 ce matin, mais ensuite je suis tranquille pour un mois. Et grâce à ça, je peux faire mes courses ici et faire partie de la coopérative.
Marc, vous êtes à la caisse, maintenant que votre client est passé, on peut reprendre.
Oui, on peut reprendre.
Est-ce que c'est compliqué de s'improviser caissier cette fois-ci? Et puis la dernière fois, c'était peut-être du réassort ou de la pesée?
Non, ça prend vite. Généralement, on est avec quelqu'un qui a déjà fait la chose avant. Donc là, par exemple, Sophie, c'était sa première fois qu'elle faisait la caisse. Donc elle apprend en même temps. Et la prochaine fois, elle pourra être avec quelqu'un qui a jamais fait la caisse. Bon, après, c'est pas des tâches non plus hyper compliquées. Et puis, quand il y a un petit souci comme là, la caisse, on appelle quelqu'un du bureau et il débloque la situation. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans le projet de la Louve et donné envie de devenir coopérateur?
À la base, clairement, c'est le prix de l'alimentation à Paris. C'est vraiment hors de prix, je trouve. Même sur les marchés, je trouve que c'est vraiment pas donné. J'avais plutôt envie de manger du bio, mais alors là, j'en parle même pas. Les Biocoop et compagnie, c'est carrément des prix exorbitants. Et pour moi, le fait de pouvoir, en un service, toutes les 4 semaines, d'acheter des produits qui, je pense, c'est à peu près 30% moins cher que dans les grandes surfaces. Pour moi, l'exemple typique, c'est le prix du kilo des bananes. On est à 1,65 à la Louve. C'est des bananes bio. En gros, on est à 3 euros le kilo dans un supermarché normal. Et en bio, on est à facilement 3,80, voire 4 euros le kilo. Donc c'est vraiment des grosses différences de prix.
Bon service.
Merci.
Ce qui permet ces prix plus bas, c'est la participation de tous les membres. Au départ, chaque coopérateur souscrit une part à 100 euros, 10 euros pour ceux qui touchent les minima sociaux. Puis il doit, toutes les 4 semaines, venir participer pendant 3 heures aux tâches du magasin. Je peux vous demander votre prénom ?
Bruno.
Ça fait longtemps que vous êtes à la Louve ?
Mais moi, j'ai un gros défaut, c'est que je suis conseiller de quartier chargé du commerce dans le 18e. Du coup, dès le départ, j'étais au courant du projet.
Et pourquoi au départ, vous avez adhéré au projet et vous êtes devenu coopérateur ?
Parce que c'est super, non ? c'est une belle aventure. Et puis, alors, ce qui m'a plu, c'est l'aventure de départ. Mais moi, je me souviens du tout début, c'était extraordinaire. On allait aux réunions de financement, etc. On avait les banquiers, on avait les trucs. Tout le monde était épaté par le projet, quoi. Mais même les banquiers, quoi. Ils faisaient les prêts à signer. Je trouvais ça, j'avais jamais vu une réunion pareille. Quand il a fallu peindre l'intérieur du magasin, faire les étagères, j'ai jamais vu autant de bénévoles arriver en plein week-end comme ça pour faire des milliers d'heures de leur temps. Donc j'ai trouvé ça absolument. Mais moi qui fais dans l'associatif, j'ai jamais vu ça. Donc franchement, c'est un très très beau projet. Après, une fois que c'est ouvert, c'est une autre aventure. Mais moi, avant l'ouverture, c'était extraordinaire, c'était magnifique. Donc je trouvais ça. Non, vraiment, à chaque fois ça reportait. On arrivait ici, la salle était pleine. On ouvrait la deuxième salle. On mettait des écrans là en plus. Il y avait 4 écrans. Franchement, c'était un truc de fou.
C'est le côté aventure collective.
Exactement. Et en plus, on annonçait aux gens qu'on va prendre 6 mois de retard. Donc les mecs ont filé 100 balles. Il fallait poireauter et on leur annonçait qu'il y avait 6 mois de retard parce que la préf avait relancé la sécurité et que c'était pas aux normes. J'ai jamais vu ça nulle part. Le mec, il gueule pour 3-5 minutes de retard, là, il y a 6 mois. Ah non, c'est une aventure. Moi, j'adorais. Je n'oublie pas cette aventure-là. Franchement,
mais ça
pas.
A changé.
Ben, c'est autre chose. On est passé à une étape suivante. Maintenant, on a beaucoup. Ce sont des consommateurs, des gens qui, on le voit bien. Hein. C'est vrai que ce sont des gens qui viennent consommer. Ça marche bien. Hein. Je pense que les chiffres le montrent. Hein. J'ai regardé le bilan. Justement, l'année dernière, il est bien, il progresse, il est excellent. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de consommateurs, ouais. Consommateurs, je ne sais pas trop, mais consommateurs, oui.
LAG.
C'est les gens qu'on est pouvoir, on vote à main levée. Et ceux qu'on est pouvoir, votent aussi à main levée.
Sylviane ?
Oui.
Et il faut signer là.
Bonjour. Moi, je suis entre CoND et...
Ouais, moi, je suis AM.
Ah bah, ça, d'accord, ça.
Donc, premier point, le point sur les souscriptions avec elle.
Non, votre main, c'est vous.
Le nombre total, donc total, le grand total de personnes qui détiennent des parts à la Louve, c'est 7831. Après, il y a 3400 désinscrits. Donc ça nous laisse environ 4400 coopérateurs dits actifs. Ce sont des chiffres qui n'évoluent pas beaucoup. Hein, on a l'impression d'avoir un petit plateau dans l'inscription. Voilà.
Bonsoir.
Bon, je m'appelle Cécile Moulaille, je suis une simple coopératrice. Je voudrais savoir si vous avez une idée de la moyenne d'âge des coopérateurs.
Alors, je ne l'ai pas calculé là récemment, mais c'est, on va dire, les trentenaires. Okay. 35-45 ans. Okay.
C'est lors de ces assemblées générales, il y en a 6 par an à la Louve, que la politique et les grandes lignes de la coopérative sont déterminées. Tout ce qui relève du fonctionnement quotidien du magasin est lui décidé par les salariés. La Louve compte aujourd'hui 10 salariés à qui reviennent, entre autres tâches, l'organisation des rayons ou le choix des fournisseurs.
Je suis Tom Booth, je suis un salarié à la Louve, un des cofondateurs du projet. On est tous les trois des cofondateurs du projet.
Jean-François, Eric, un des salariés également désormais. Et puis voilà, fervent défenseur du projet depuis le début également.
Je m'appelle Brian Horahan et je suis également là depuis le début et salarié actuellement.
Il y a énormément de références, le magasin il est très bien achalandé. Comment ils sont choisis les produits qu'on retrouve en rayon ici à la Louve?
Ça fonctionne beaucoup avec, on a un livre de suggestions à l'entrée du magasin. Et si on veut un certain produit, on écrit dans le livre et on voit si c'est possible pour nous de l'avoir. Et si oui, pour l'instant, parce qu'il nous reste pas mal de place dans notre magasin, on le met en rayon pour voir. Et parce que l'autre côté, c'est ce qui détermine ce qu'on garde ou pas, c'est les ventes des produits. Et donc, entre ces deux choses-là, on trouve que c'est le moyen de fonctionnement le plus démocratique possible. Il y a 6 critères qui utilisent les gens. Bio, l'écologie, c'est très important pour tout le monde. Local, quand il est possible, c'est important. Équitable semble moins important, franchement, pour plein de gens, mais pour nous, c'est très important. Pour nous aussi, le goût était très important. Nous, on a 2 autres critères qui sont le prix du produit. Et le 6e, c'est lié à ça, c'est la responsabilité d'être un outil pour tout le quartier. Tout le monde est bienvenu dans le projet.
Disons entre 6h et parfois 10h du matin, le quai de livraison il est en train de sonner constamment. Il y a toujours un chauffeur, un camion qui débarque et qui a des palettes. Et donc c'est peut-être l'une des premières étapes qui va décider parfois quel produit on peut avoir ou pas. Est-ce qu'un de nos distributeurs a référencé ce produit-là? Après, il y a des produits qu'on veut vendre, qui sont pas distribués autrement que directement avec la personne qui les fabrique. Et donc, on fonctionne plus comme ça avec du vin, où Jean-François peut parler des éleveurs avec lesquels il traite en direct.
Justement, Jean-François, je crois que c'est vous qui avez choisi, ou en tout cas, êtes allé visiter la ferme de la Houssée pour tout ce qui est volaille ici. C'est ça? Comment ça s'est fait avec les producteurs là-bas, en Normandie?
Pas forcément avec des visites au départ même, pour le dire franchement. C'est qu'à un moment, on était trop sur le projet pour avoir le temps d'aller visiter. Par contre, on s'est énormément renseigné. Et du coup, à force de renseignements, de faire valoir également la réputation de certaines petites fermes ou ce genre de choses, on arrivait à trouver la bonne échelle, une taille suffisante en fait de ferme pour pouvoir alimenter les spéculations qu'on faisait sur le nombre de personnes qui pourraient chercher et faire ses courses à la Louve. Donc il fallait que ça soit suffisamment important. Et en même temps, il fallait que ça soit une qualité suffisante aussi pour qu'on puisse satisfaire et avoir à la fois un bon prix et à la fois une viande de qualité. Et du coup, on a énormément cherché, on a fait des comparaisons. Moi, j'avais établi des petits tableaux, des choses comme ça à un moment quand je faisais mes recherches, juste pour dire, ben voilà, cette ferme-là, elle nous semble idéale. Après, dès qu'on pouvait, on allait la voir et puis on regardait un petit peu ce qui se passait. On n'a jamais été déçus. Le but du jeu, c'était vraiment de cerner le maximum des critères qu'on pouvait avoir à cœur de trouver, quoi. C'est-à-dire la qualité,
de remplir,
chercher le terme. Aussi bien la façon dont les animaux étaient traités, aussi bien la façon dont les animaux étaient nourris, quasiment l'ensemble des fermes avec lesquelles on travaille pour la viande, la nourriture est produite sur la ferme, en fait. Donc c'est quand même un gage de satisfaction, de traçabilité, de qualité, qui nous plaisait beaucoup.
Le vin yaourt certifié sans vache à Magnum de Château qui tâche, le déodorant super flash et 120 rouleaux de papier cul.
Avant tout de même, ils évacuent.
N'oubliez pas votre reçu.
Merci, madame.
France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
On cherche Donatien Lavigne. Je vais l'appeler.
Ok. Il se trouve quelque part.
Nous sommes venus voir à quoi elle ressemble, cette ferme de La Houssaye. C'est en pleine campagne normande, à Épaigne, à 2 heures au nord de Paris. Un grand terrain, il y a de nombreux bâtiments dans lesquels on trouve des pintades, des canards et des poulets. Toutes ces volailles qui fournissent le supermarché coopératif de la Louve.
Vous avez des bottes ?
Non.
Est-ce que j'ai peut-être des surchausses ? Donc Donatien Lavigne, 25 ans, voilà, j'ai 25 ans, donc agriculteur, on va dire sur Épaigne, sur une ferme de polyculture élevage, hein, volaille et surtout canard pour le foie gras. Et tous les produits de la ferme sont destinés donc à notre abattoir et on commercialise donc tout nous-mêmes, donc sur un rayon d'environ 50 km autour de chez nous et on déborde un peu sur la région parisienne. Le problème aujourd'hui de vendre en grande surface, c'est que nos produits sont à côté de produits labellisés. Mais un label rouge aujourd'hui, c'est un produit de qualité fait par un industriel. On n'est pas du tout dans le produit artisanal, on n'est pas du tout dans le produit local. Dans un supermarché comme la Louve, on sait que nos produits, ils vont être valorisés et mis en valeur tel qu'il le faut et tel qu'on a besoin d'être connu pour subsister et pour que les gens puissent venir chez nous.
Ça veut dire que les gens qui achètent reconnaissent la valeur
oui.
de votre travail
oui,
à vous,
oui,
c'est ça
oui, et du coup, ils sont pas, enfin, ils sont moins regardants et sur le prix. Hein, je parle en question de prix, ils sont pas regardants. Ils attachent beaucoup de valeur à la qualité et alors la qualité dégustative, mais il y a tout ce qui va derrière, c'est-à-dire le respect de l'environnement, la main d'œuvre. Est-ce qu'elle est locale? Est-ce qu'on fait travailler les Français? Est-ce que voilà, ils sont attachés à un produit qui est environnementalement et sociétalement intégré dans son environnement. Donc nous, on est une petite entreprise, on va forcément embaucher de la main-d'œuvre dans un rayon de 10 km. Les gens nous font confiance, et ils nous font confiance parce que justement, on leur parle et on s'est engagé à toutes ces démarches-là.
C'était important pour vous que votre produit, ce ne soit pas un produit parmi d'autres?
Oui, on se bat tous les jours, on se lève le matin pour faire le produit qui est différent. Quand les gens nous disent « Ah oui, on mange quelque chose qui n'est pas comme les autres », c'est tous les compliments qu'on souhaite recevoir des clients.
Comment est-ce que vous avez fixé le prix avec les gens de la Louve quand ils sont venus vous voir?
C'est un prix de marché, c'est-à-dire que nous, on a nos grilles de prix parce qu'on sait que il y a un prix sous lequel on ne peut pas aller. Nous, on gagne notre argent. La Louve, ils l'ont à un prix correct pour eux, admissible. Donc nous, on n'a pas une démarche où on va assassiner question prix. On vend un produit quand même qu'il faut qu'il reste abordable. Il ne faut pas être non plus dire je fais un produit d'exception à 150 € le kilo, ça rime à rien. On apprécie quelque chose parce que le rapport qualité, prix est bon.
Vous travaillez aussi avec la grande distribution.
Oui.
Est-ce que c'est plus intéressant pour vous
non.
de vendre à la Louve qu'à la grande distribution?
Oui, c'est complètement plus intéressant pour nous de vendre à la Louve qu'à la grande distribution. En question de prix, c'est la même chose. Mais comme je vous ai dit, le produit n'est pas valorisé pareil. Et les gens ne vont pas parler de notre produit de la même façon. Ils vont acheter en grande surface un produit banal. À la Louve, le produit, on sait que c'est un produit fermier, c'est un produit de qualité.
Classique. Mais votre intérêt, il n'est pas financier?
Ah non, il n'est pas financier. Non, l'intérêt n'est pas financier.
Bon, merci pour tout.
Je vous en prie. Bonne journée. Et puis, merci d'être passé, en tout cas.
Ah avec plaisir, c'est
bon. Je vous en prie.
Reprendre la main sur son alimentation et sa distribution n'est pas un hobby réservé aux résidents des centres urbains, c'est devenu un enjeu de société et il est encore plus prégnant avec la crise sanitaire que nous venons de traverser. Une prise de conscience globale qui explique cette tendance des supermarchés coopératifs, y compris dans les zones rurales. Nous retrouvons Faustine Calmel aux Herbiers, en Vendée. C'est la 5e ville du département où la Louette Coop a vu le jour à l'hiver 2019.
Donc là, la Louette Coop, ça fait 6-7 mois que nous sommes ouverts. Alors moi, c'est Alicia Marcoux. Je suis coprésidente de l'association L'Alouette Coop.
Et donc moi c'est Pierre Merlet, également coprésident de L'Alouette Coop. Et puis aujourd'hui je suis animalouette en fait du créneau. En gros je suis animateur des 4 personnes qui sont là pour gérer le magasin aujourd'hui.
On est ici aux Herbiers, c'est une petite ville finalement, il y a 16 000 habitants, des projets de supermarchés coopératifs, il y en a qui se montent un peu partout en France, mais surtout en zone urbaine. Est-ce qu'ici il y avait une difficulté supplémentaire? Parce qu'il y a moins de monde aussi finalement peut-être d'intéressés.
Après, notre zone elle est quand même étendue sur la communauté de communes. Là, du coup, on atteint presque 30-35 000 habitants. On est quand même sur une zone hyper dynamique où les gens, voilà, répondent présents à tout un tas de projets, que ce soit même culturel, sportif. Donc, on a cette chance-là aussi dans cette zone, voilà, de la Vendée.
Notre projet, il avance petit à petit. C'est sûr qu'on n'est pas un supermarché, on n'a pas de salariés. Tout va petit à petit. Mais voilà, les gens sont hyper compréhensibles et tout le monde s'implique aussi. C'est ça qu'on souhaitait. Je trouve que ce projet s'inscrit vraiment dans une démarche de changement de société. On est tous au courant du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité. Même des jeunes qui sont dans la rue et qui crient au désespoir que mince, notre avenir, comment ça va se passer. Et voilà, on essaye aussi de beaucoup insister sur le fait que ce qu'on consomme aujourd'hui à l'Alouette, c'est pensé, réfléchi, et ça vient de nous. Et c'est comme ça qu'on arrivera à améliorer tout simplement notre bien-être et puis aussi notre environnement. L'environnement est notre environnement et notre cadre de vie. On n'est pas juste là pour faire ses courses et manger que bio local, on est vraiment dans une démarche beaucoup plus grande.
Quand vous êtes allé voir les producteurs locaux dont vous vendez là notamment par exemple les fruits et légumes, ils vous ont pas dit mais c'est quoi ce projet bizarre, c'est farfelu? Ils voyaient de quoi vous parliez, ça les intéressait?
On n'a pas eu de grandes surprises, enfin de grands questionnements. Voilà,
on a eu quelques craintes sur qu'on négocie en fait. Qu'on soit dans un rapport de force en étant un certain nombre de consommateurs, qu'on cherche en fait à avoir un rapport de force, alors que nous c'était pas du tout ça en fait quoi. L'objectif de départ, nous, il était d'avoir le prix du produit qui est vendu à la ferme, d'y ajouter en fait une marge qui est la même pratiquement pour tous les produits et qui est transparente. C'est-à-dire que tous les coopérateurs aujourd'hui savent, connaissent la marge en fait qu'on applique et qui est d'environ 18%, voilà quoi. Donc tout le monde la connaît, donc tout le monde connaît le prix en fait juste du produit chez l'agriculteur et on n'est pas du tout dans une démarche de négociation en fait. Et c'est ça aussi qu'on a essayé de leur transmettre en fait dès le départ.
Ça se passe comment en fait?
Bah, tu dois tremper ta brosse à dents dedans, non?
Ah bah elle va être toute noire en fait. Je sais pas. Allez, c'est marqué là.
Tu règles
ouvrir
comment?
Ouvrir le pot des gâteaux.
Tu règles comment?
Pardon. Je vais aider. Ah, j'ai plus assez de sauce au monde. Alors, je vais aider Maca. Ça va le faire?
Oui, oui.
Je vais vous redemander du coup vos prénoms, s'il vous plaît.
Marie, Dominique,
Françoise.
Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'adhérer à l'Alouette COP?
La démarche de circuit court, le zéro déchet. Mmh. Et puis en plus, vous avez vu l'ambiance là, donc c'est déjà une belle démarche.
Vous faisiez où vos courses avant?
Supermarché. Également.
Vous le dites avec une toute Également. Petite voix, comme si c'était un peu honteux.
Voilà, ça peut un être petit honteux. Peu honteux, oui.
Non, mais oui, effectivement, oui. Plutôt en grande surface, oui.
On n'a pas déserté la grande surface parce que tous les produits ne sont pas voilà, dans le magasin. Hein. Mais on essaye au maximum de le faire ici.
Et on fait nos courses pour nos repas en fonction des légumes et des fruits qui sont ici. Puis après, on va chercher ce qui nous manque. Je dois reconnaître que mon caddie est beaucoup plus petit maintenant en grande surface.
En fait, on achète moins de choses dans les supermarchés hyper. On prend comme ça. On n'utilise pas toujours. Là, du coup, on achète ce dont on a besoin. Donc, c'est impeccable. Changement, les placards sont moins pleins quand même, du coup. Donc, c'est un atout, c'est vrai.
C'est plus difficile pour nous de changer nos habitudes alimentaires que pour les jeunes. Et ils nous apprennent beaucoup. Ils nous apprennent des recettes qu'on faisait pas, moi, j'apprends.
Un bel échange.
Oui.
Un bel échange.
Les échanges, c'est important.
Et financièrement, ça vous revient plus cher, moins cher? C'est pareil qu'au supermarché?
Alors, les produits sont normalement légèrement plus chers. Mais comme on n'est pas tenté par tous les produits qui nous attirent en supermarché, eh bien, en fait, on s'y retrouve très bien. Oui.
On s'y retrouve très bien et on a moins de pertes parce que comme on achète au poids, en fait, eh bien, on achète qu'est-ce qu'on a besoin.
Et vous venez faire vos courses entre copines?
Oui, voilà. On est toutes les trois ensemble.
Covoiturage.
Eh bien, merci. Bon retour en covoiturage alors.
Oui, voilà. Oui, merci.
Merci de vous intéresser à nous. C'est riche. C'est très riche.
Bonjour.
Je suis Calmel, France Inter.
Vous vous souvenez qu'on est aujourd'hui?
Oui, oui, oui.
Ça va?
Ouais, ouais. Non, non, c'était noté, pas de soucis.
Nous voilà arrivés au jardin d'Herbauges, c'est à moins de 5 km de l'Alouette Cop. Il y a plusieurs serres ici, des légumes aussi qui poussent en pleine terre. L'exploitation fait 5 hectares. Et tous ces légumes, les tomates, les poivrons, les carottes, finissent dans l'assiette des coopérateurs. Thomas a 36 ans, il est donc jeune agriculteur et il a repris l'exploitation au printemps dernier. Est-ce qu'on peut faire une petite visite?
Ouais. Moi, j'ai repris l'exploitation il y a 4 mois seulement. C'était du maraîchage traditionnel. Et je vais vers du maraîchage sol vivant, donc avec de la couverture naturelle, du paillage, nourrir au maximum le sol avec des produits végétaux. Et comme ça, j'ai moins à travailler et c'est les vers de terre qui travaillent pour moi. Donc, on va pouvoir aller par là. Donc là, on est sur pommes de terre, poireaux, courges, les choux, les navets, les carottes, betteraves. Aujourd'hui, il y a à peu près 85 variétés. C'est 85-90 variétés différentes sur les 2 hectares de maraîchage à l'année.
Donc ça fait des petites productions.
Voilà. Pas de grosses productions. Moi, mon but, c'est de faire de l'ultra local, de toute façon. C'est pas d'aller aux mines de Nantes ou de produire pour toute la Vendée. Moi, c'est juste produire les herbiers, enfin, on va dire 5-10 km autour d'ici, en fait. Pour éviter aussi l'impact carbone, qui est aussi une chose importante. C'est bien d'avoir du bio, mais s'il vient de l'autre bout du monde, moi, c'est pas ce que je veux faire, en tout cas.
D'où l'Alouette Coop aussi.
D'où l'Alouette Coop. Ça permet une bonne dynamique autour de l'agriculture, en fait. C'est ça qui est pas mal sur le principe des épiceries coopératives, comme ça. Là, on passe sur des parties extérieures en fait, donc j'ai plusieurs parcelles, on doit faire des rotations. Là, c'est de la betterave du coup, donc on a plusieurs variétés de betteraves. Voilà, là, elles sont encore petites, mais en fait, voilà, ça c'est de la betterave qui, dans un mois, en plus avec l'eau qui est tombée, aura doublé voire triplé de volume. Quoi.
Et par exemple, vous demandez aux coopérateurs de l'Alouette Coop ce qu'ils en pensent, vous avez des retours d'eux sur vos produits?
Ouais, aussi. Par exemple, là, il y a 15 jours, je leur ai demandé s'ils voulaient des courges. J'ai testé des nouvelles courges qui, pour moi, sont très bonnes, mais qui, d'aspect, sont pas très vendeuses. Même l'Alouette Coop, même si c'est des coopérateurs, ça reste un commerce. On voit d'abord le physique. Et des courges noires avec des pustules partout, et ben voilà. Mais du coup, ils ont essayé et puis ils me donnent un avis. Derrière, on a des échanges. Il y a une réelle confiance, un réel échange avec l'Alouette Coop et c'est bien. Dans le commerce, c'est aussi ça, il faut que ça marche dans les deux sens.
Ça représente une grosse part de votre débouché de production et de votre chiffre d'affaires?
L'Alouette Coop aujourd'hui, je pense que c'est à peu près 10-15%. Et c'est 10-15% qu'il n'y avait pas les années d'avant. Donc au final, ça fait déjà une bonne augmentation. Moi, j'avais prévu, en m'installant, de faire une petite augmentation de chiffres et du coup l'Alouette Coop oui, me fait largement mon augmentation sur l'année 2019 là.
Aujourd'hui, pour la production que vous proposez et la manière dont vous travaillez, il y a un marché et ce marché là il se développe du côté des consommateurs.
Ouais. Ah oui, clairement il se développe. Il se développe donc ce qu'on appelle vraiment sur de la vente directe où les gens veulent venir cueillir. Veulent venir chercher leurs légumes directement, vont venir faire leur marché directement à la ferme. Et ça se développe aussi par des intermédiaires, donc des marchés de producteurs ou des initiatives comme l'Alouette Coop. Enfin, ils sont en plein dans le créneau et on voit aujourd'hui que ça marche bien. Quand j'ai vu qu'il y avait ça aux Herbiers, je me suis dit, pour de là que ça arrive dans une petite ville comme les Herbiers, parce que c'est tout petit, hein, ça fait son chemin et ça marche, quoi. Les gens que je rencontre, donc j'ai fait des portes ouvertes, j'ai fait des choses comme ça, des petites visites, des marchés de producteurs. Et en fait, j'ai récupéré des clients qui me disent, en fait, juste pour votre joie de vivre, parce que vous êtes heureux de faire ce que vous faites, en fait, on vous achète des légumes. Là, ça fait plaisir et là, c'est la récompense, quoi. Et qu'on n'a pas dans la grande distribution. Dans la grande distribution, on est juste, voilà, un petit boulon dans le rouage et il faut que ça marche, quoi. Et si ça marche pas... On nous envoie aussi balader. Voilà. Il en faut pour tout le monde. Aujourd'hui, sans la grande distribution, on ne pourrait pas alimenter tout le monde, c'est clair. Mais par contre, il faut que les grandes enseignes soient beaucoup plus raisonnées pour continuer. Sinon, moi, pour ma part, en tout cas, c'est un boycott.
Donner du sens à ses achats et du goût à son assiette, tout le monde ne peut pas se le permettre. Est-ce un luxe pour une toute petite partie de la population? En d'autres termes, un repère à bobo? C'est en tout cas un écueil à éviter, reconnaissent les historiques de la Louve que l'on retrouve aux côtés de Faustine Calmel.
On vous retrouve, Tom, Ryan et Jean-François, donc à la Louve, ce supermarché coopératif qui est installé au nord de Paris. Il y a aujourd'hui environ 4500 membres actifs, sur plus de 7000 personnes, je crois, qui à un moment ont adhéré au projet. Est-ce qu'on sait où elles sont parties, ces personnes-là, et pourquoi?
Oui, il y a des personnes qui partent de la coopérative parce que ça ne marche pas pour eux. Et la plupart des temps, c'est des gens qui nous écrivent, c'est des déménagements. C'est des personnes qui découvrent qu'ils, finalement, ils habitent trop loin pour que ça marche pour eux. Et donc, ils n'utilisent pas vraiment le supermarché. Et on a quelques cas, mais vraiment quelques cas, des personnes qui n'aiment pas du tout le concept, des choses comme ça. Mais c'est moins d'un pour cent, je dirais.
En discutant avec pas mal de coopérateurs, un petit reproche qui revenait de temps en temps, certains avaient l'impression de se retrouver un peu entre soi. C'est-à-dire que la Louve s'est installée dans un quartier populaire, dans le nord de Paris, et que finalement, les habitants de ce quartier issus des classes populaires, ils sont peu présents. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous constatez?
Bon, je dirais, donc, une des choses qui nous a attiré avec le modèle, c'est à la Park Slope Food Co-op, notre modèle à New York. C'est la mixité sociale la plus réussie que j'ai jamais vue. Et tout le monde dit, c'est impressionnant. Mais ils disent eux-mêmes que pour eux, même de commencer cette mixité sociale, ça a pris 5 ans juste de commencer de l'avoir, parce qu'au début, le projet, c'est une espèce de ovni. Ceci dit, moi, je trouve que ça s'améliore et c'est pas mal ici. On est actuellement 10% de nos membres qui sont soit bénéficiaires de minima sociaux, soit des étudiants boursiers, mais la plupart bénéficiaires de minima sociaux, avec un autre 16% de nos membres qui paient en plusieurs fois le 100 euros qu'il faut payer si tu n'es pas bénéficiaire de minima sociaux. Donc c'est un quart de nos membres pour lesquels c'est difficile juste de verser 100 euros comme ça. Et ça s'améliore. Ça, c'est un chiffre qui a augmenté avec les bénéficiaires de minima sociaux par 2% l'année dernière.
Pour les différentes communautés du Nord parisien aussi qu'il peut y avoir, je veux dire, l'image avant tout du supermarché qui est là, elle ressemble pas forcément au commerce qu'il y a à Barbès, par exemple. Et du coup, c'est difficile à la fois de les attirer, et en même temps, si jamais les gens viennent pas, bah, on n'a pas de raison de se fournir en produits qui pourraient aussi les satisfaire. Donc c'est un jeu de la poule et de l'œuf, hein, un petit peu, pour que ça puisse prendre. Et c'est pour ça, je pense que je suis d'accord avec toi. Moi, je pense même que c'est 10 ans que ça mettra à commencer à se souder, à prendre un petit peu. Après, on fera tout pour. Hein. On a vu toutes les associations possibles, imaginables du quartier. On a parlé énormément avec les gens. On essaie de faire visiter à toutes les personnes qui peuvent venir. Même les gens qui sont dans le quartier, même les commerçants du quartier, quand ils en parlent un petit peu, de temps en temps, c'est difficile de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils viennent visiter. Si jamais ils venaient visiter, peut-être qu'ils changeraient d'avis. Mais ça prendra, à mon avis, 10 ans, moi, je pense. Ça va prendre un temps fou.
Tous ces nouveaux modes de consommation, les circuits courts, la manière qu'ont les consommateurs de se regrouper pour mieux gérer leur alimentation. À Paris, une chercheuse étudie tout ça. Laure de Biasi travaille à l'Institut Paris Région. Elle va décrypter pour nous l'ensemble de ces nouveaux usages. Bonjour. On a rendez-vous avec Laure de Biasi à 16h.
Je suis pas sûre d'être là.
Ça marche,
merci. Je vous en prie.
On l'a entendu dans ce reportage lors de Biasi, il y a des citoyens qui essaient justement de reprendre en main leur alimentation, souvent pour aller vers des circuits plus courts, des produits plus locaux. Pourquoi est-ce que ça émerge maintenant ?
Alors, en fait, je pense qu'il y a une vraie volonté de reprendre la main sur son alimentation, certainement en réponse à une forme de défiance face au système alimentaire que l'on connaît ou que l'on ne maîtrise plus et qui n'est plus durable, mais aussi le besoin de comprendre, en fait, comprendre d'où viennent les produits, comprendre comment fonctionne le système alimentaire, et certainement aussi l'envie de s'impliquer. Il y a une prise de conscience sur la nécessité de changer le système, et justement ces circuits courts ou ces circuits de proximité vont permettre une expérimentation concrète du changement.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre le fait que ces consommateurs, ils sont majoritairement urbains, hein, ces supermarchés coopératifs, ils se développent beaucoup en ville, et le fait que, bah, justement, comme on est en ville, finalement, il y a peu de production agricole. Est-ce qu'on peut concilier les deux ?
Il y a, en effet, aujourd'hui, très peu d'agriculture en ville ou à proximité des villes. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la ville et l'agriculture se regardent à nouveau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si ville et agriculture s'étaient éloignées, aujourd'hui, on a tout un ensemble de systèmes, ces circuits courts, cette agriculture de proximité, qui vont permettre aux agriculteurs et aux citadins de se parler, de retrouver des liens et de faire changer le système alimentaire.
Je suppose que ça, c'est valable à une certaine échelle ou pour une certaine partie des urbains. Mais si on ne pourra jamais imaginer nourrir, je ne sais pas moi, tout Paris avec des produits franciliens.
Alors, en effet, au niveau mondial, il y a aujourd'hui plus d'habitants qui habitent en ville qu'à la campagne. Et à l'horizon 2025, ce seront les deux tiers des habitants qui habiteront en ville. Pour ce qui est de l'Île-de-France, c'est évidemment encore plus parlant, j'ai envie de dire, on a 5000 agriculteurs pour 12 millions de franciliens. Et si on prend Paris et Petite-Couronne, c'est même un agriculteur pour 74 000 habitants. Alors évidemment, il faut relativiser ces chiffres en fonction des filières. Par exemple, pour le blé, on est bien en Île-de-France, pour la salade aussi, pour le persil, pour le cresson. Mais à moins de ne manger que des sandwichs à la salade et au cresson, ça va être un petit peu compliqué.
Lors du Biasi, ces supermarchés coopératifs se développent. À l'autre bout de la distribution, il y a ces grands hypermarchés, ces supermarchés. Comment est-ce que aujourd'hui ce secteur de la grande distribution évolue par rapport à l'envie de manger bio, de manger local, qui émerge sur une partie de plus en plus grande de la population ?
Alors la grande distribution, tout d'abord, reste le lieu d'achat majoritaire pour les produits alimentaires. Les deux tiers des produits alimentaires sont achetés en grande distribution. Et c'est vrai qu'ils adaptent à la fois leur format et leur concept en fonction des attentes des consommateurs. Les très grandes surfaces sont aujourd'hui un petit peu en bout de course, mais il y a un développement des formats de proximité, les supérettes ou les petits supermarchés. Par exemple, en Île-de-France, le nombre de grandes et moyennes surfaces a augmenté de 56% ces 10 dernières années. Donc on voit bien que le modèle persiste encore. Et puis, ils mettent en avant des marques locales. Chaque enseigne y va de sa marque locale. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'ils n'ont pas tous la même définition du local, puisque ce n'est pas une définition officielle. Par exemple, pour Carrefour, c'est 30 km pour les producteurs locaux. Pour le meilleur d'ici de Casino, c'est 80 km. Pour le Made in pas très loin de Monoprix, c'est 100 km.
France Inter, Interception.
Moi, je sais pas trop ce que je vais acheter. C'est ça, vous voyez le charme. Vous rentrez, vous n'avez pas de liste, rien, et puis vous regardez. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui à ma petite femme qui va rentrer du travail et tout.
Après avoir rencontré à Paris, en Vendée, des consommateurs qui montent leur propre supermarché, nous sommes maintenant à Colmar, où ce sont des producteurs alsaciens qui ont ouvert leur boutique, Cœur Paysan. Ici, ils vendent leur production et ils sont aussi à la vente, derrière les étals, pour parler avec les consommateurs de leurs produits. Nous allons rencontrer Denis Digel, c'est lui qui a monté ce projet il y a maintenant 3 ans.
Alors Cœur Paysan, c'est un magasin qui regroupe une quarantaine de structures agricoles. Tout produit différent, donc du laitage. Dans le laitage, on a une dizaine d'agriculteurs. En viande aussi une dizaine, en fruits et légumes, on est 5 ou 6 aussi. Plus encore des produits un peu spécifiques. Évidemment, en Alsace, du vin, on a 2 producteurs. On a aussi de la bière, on a des pâtes, on a des céréales, etc. L'idée de Cœur Paysan, c'était de regrouper à un endroit donné des savoir-faire différents. Des savoir-faire agricoles différents avec des gens qui font déjà de la vente directe ou qui veulent en faire et qui veulent développer cette forme de vente qui est un peu pas nouvelle mais qui prend de l'ampleur aujourd'hui.
Vous fonctionnez comme une coopérative et les producteurs viennent aussi ici vendre les produits et participer à la vie du magasin.
Tout à fait, donc les producteurs sont partenaires, actionnaires du magasin et décident du choix, des choix stratégiques pour le magasin et ça a été fait dès le départ. Dès le départ, c'est comme ça qu'on a construit le magasin, c'est l'esprit collectif qui prédomine. On tenait absolument à ce qu'on ait un lien direct avec le consommateur. Et finalement, c'est ça que recherche finalement le paysan, mais aussi le consommateur qui veut vraiment un lien direct.
Ici, avant le projet Cœur Paysan, c'est un Lidl qui devait s'installer. Ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir, mais il y a une symbolique très forte quand même. C'est vrai qu'on a racheté un supermarché, Lidl. Alors Lidl, c'est un très bon client à moi. C'est quelqu'un qui fait du bien, je pense, pour la ferme France. J'ai pas peur de le dire. Mais on a racheté un bien parce que Lidl a changé de dimension et ce bien était à vendre. Sur une route passante, il y a 20 000 voitures devant le magasin qui passent par jour. C'est vrai qu'il y a une symbolique très forte que des paysans rachètent un Lidl ou un supermarché. On reprend notre place, on prend notre place. On a mis beaucoup d'argent parce que ce n'était pas donné, l'investissement. Là, on a mis beaucoup d'argent sur la table et aujourd'hui, il faut le faire fonctionner et ça fonctionne.
Merci beaucoup, une excellente journée à vous. À bientôt.
Au revoir, madame.
Alors ici, je suis le volailler, hein. Je m'appelle Stirmel et je fais des pigs. Hein. Ça fait maintenant 40 ans que je fais de la volaille. Hein. On a commencé tout petit. Hein. D'année en année, on a mis des produits en plus et voilà, c'est pour ça l'étal est... Elle a 5 mètres et demi, quoi, 6 mètres.
Vous voilà. Avez plein de choses. Vous pouvez me dire un petit peu ce que vous vendez ici?
Tout est à base de volaille, hein, à 95%, même 98%, 100% volaille. Hein. Ça veut dire qu'on transforme la tourte, hein, qui est la plus vendue actuellement sur Cœur Paysan. Hein. On fait des saucisses hein, à la volaille, 100% volaille. On fait des l'émincer, voilà, on transforme les cuisses farcies, pâtées en croûte et des galettes de pommes de terre qui devraient avoir avec la volaille, mais que les clients ont demandé pour avoir de l'accompagnement au niveau de la volaille.
Avant de venir vendre tout ça dans ce magasin, Cœur Paysan, quel était votre circuit de distribution ?
Ben, notre distribution, c'était les marchés, en vente directe déjà.
Et alors venir ici, qu'est-ce que ça vous a apporté en plus ?
Mais venir ici, c'est quand même 30% de mon chiffre qui a augmenté. Quoi. C'est clair. Voilà, 30% en plus, c'est pas rien. Quoi. On peut mieux vivre avec 30%. Voilà, vous avez 30% un peu de bénéfices en plus. Hein. Voilà, rien à dire. Vous pouvez envisager un peu l'avenir plus autrement. Quoi. Parce que sans ça, l'avenir était morose. Hein. C'est, là, j'envisage quand même d'agrandir un peu la transformation et hein, tout ça pour l'avenir de mes enfants. Quoi. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire.
Être à Cœur Paysan, ça veut dire aussi être présent ici dans le magasin. C'est du temps que vous n'avez pas sur votre exploitation. Comment vous l'avez intégré, ça ?
Mais c'est par une embauche, c'est clair. On était de toute façon un peu limite au niveau de la transformation. Puis bon, on a embauché une personne pour faire mon poste. Et mon fils a pris un peu le relais de ce que je faisais avant. Et voilà, on s'est partagé la tâche. Quoi.
Donc venir ici, ça vous a permis d'embaucher quelqu'un en plus ?
Ah, oui, il fallait de toute façon. Moi, j'ai... Il y a plus de travail en amont, hein. il n'y a pas de secret, les 30%, ça ne faut pas tout seul. Hein.
Aujourd'hui, avec cette nouvelle activité, ce nouveau débouché que vous avez à Cœur Paysan, votre avenir vous semble plus serein ?
Ah oui, surtout pour mes enfants. Parce que, je veux dire, la clientèle sur les marchés, c'est quand même des personnes plus âgées qui veulent rester dans leur village et ils achètent sur place. Quoi.
Et ici, ça vous permet de toucher une autre clientèle ?
Voilà, ici, c'est une autre clientèle. Tout à fait différent, et puis bon, on a de tout là quand même, mais c'est quand même une clientèle qui veut acheter local, raisonné, et c'est une clientèle qui trouve tout sur le même endroit. Ils se déplacent une fois, ils ont tout. Et ça, c'est la clientèle qu'on a réussi à toucher à Cœur Paysan.
Je prends la même chose. Hein, une
sauce bouchée à la reine ?
Oui. Et deux croûtes aussi.
Et deux croûtes.
Si Denis Digel, vous êtes le fondateur de ce magasin. Il y a aujourd'hui beaucoup de ce que certains appellent l'agribashing. On dénigre parfois l'agriculture, certaines méthodes agricoles. Est-ce que ce lieu, c'est un moyen aussi de mieux faire connaître votre métier et d'aller contre ça ?
Forcément, parce qu'on a des gens intéressés qui viennent chez les agriculteurs organisés. Et donc, c'est des gens qui sont intéressés déjà sur leur alimentation, sur le bien manger. Aujourd'hui, le consommateur, il veut, avant de savoir comment on le fait, il veut savoir qui le fait. C'est ce qui rassure en premier le consommateur.
Ce magasin, depuis qu'il a ouvert il y a 3 ans, il fonctionne bien, même très bien. Il y a beaucoup de gens qui passent. Comment vous avez été reçu par les grandes surfaces du coin ?
Bah finalement, quand un nouvel acteur arrive quelque part, on vous regarde toujours de travers. Il y avait, je ne vais pas dire de la pression, mais il y avait un regard qui était insistant. On va dire ça comme ça. Et puis finalement, ça s'est bien passé parce que pourquoi nous, paysans, n'aurions pas le droit de faire un magasin ? Évidemment, on va un peu à leur rencontre parce qu'eux, ils ont l'outil commercial. Mais encore une fois, ils comprennent aussi que les gens veulent aller directement chez le producteur. Ils le comprennent très bien. Et nous, on a capté ces gens-là. On tire vers le haut cette filière, on ramène de la plus-value dans la filière, on ramène une plus-value qualitative à nos clients et finalement, tout le monde sortir la filière à l'eau, la grande distribution est aussi obligée de suivre ce, pas notre modèle, mais l'envie de local, l'envie de Made in France, et ça y va. Il y a juste encore un problème global de revenus dans le monde paysan. Il y a, je pense, deux mouvements. Un mouvement qui, des gens, des citoyens qui se prennent en main, des paysans, des consommateurs qui se prennent en main, et c'est très bien, et ça va dans le bon sens. Et puis après, il y a toujours une grande partie de la population qui ne réfléchit pas, qui consomme, peu importe l'impact. On peut parler d'écologie, de biologie, on peut parler de tout ça. Le gros de la masse, évidemment, il ne se rend pas compte de l'impact qu'il a juste en consommant. En rapprochant les gens, je pense qu'il y a une prise de conscience. Les gens, chez nous, ils, en général, ils achètent et font plus attention, ils sont avertis, et finalement, ils jettent moins. Donc il y a une prise de conscience globale, elle progresse pas assez vite, certainement, mais toutes les occasions et toutes les initiatives sont le bienvenu aujourd'hui pour rapprocher finalement les gens.
L'autogestion face à la grande distribution, c'était un reportage de Faustine Calmel. Laurent Lucas a assuré la prise de son. Réalisation Sonia Leglen, assistée de Lucie Lemarchand. La semaine prochaine, dernière rediffusion de l'été avant notre rentrée des classes, Christine Siméone nous fera découvrir les métiers qui seront amenés à reconstruire Notre-Dame plus d'un an après l'incendie qui a ravagé une grande partie de la cathédrale. À la semaine prochaine.